Bien, il est 20h, donc nous allons ouvrir cette séance du Conseil. C'est pas que nous allons ouvrir, c'est nous ouvrons cette séance du Conseil municipal qui sera la dernière avant les vacances. Voilà, j'ai commencé par procéder à l'appel des conseillers. Abena Laurence, Enzi Jean. Absent, pouvoir à Francis Panier. Michel Arnoux, présent. Odile Arnoux,
pouvoir.
Absente, pouvoir à
Marie-Claude.
Martine Barra, absente, pouvoir à Patrick Stephen. Dolores Barouin, Michel Biez,
présent.
Laurent Baumler,
présent.
Johan Boucli, absent, pouvoir à Michel Arnoux. René Brouillard,
présent.
Annie Carpentier, absente, pouvoir à Cécile Raguido. Evelyne Kerol,
présente.
Marie-Claude,
présente.
Dominique Coulet,
pouvoir.
D'accord. Absente, excusez, pouvoir à Dolores Barouin. Patrick Floury.
Présent.
Stéphanie Fourdrin-Delbar.
Présent.
Lisiane Grosbon.
Excusez.
D'accord. Christophe Lamy.
Oui.
Présent. Jean-Claude Lemercier.
Présent.
Marie-France Merlin.
Présente.
Francis Panier.
Présent.
Philippe Rabé.
Présent.
Cécile Raguido-Davidovitch.
Présent.
Ferruja Raoui.
Présent.
Patrick Sauvage.
Présent.
Patrick Stéphane.
Présent.
Patrick Urbano.
Excusez.
Très bien. Il y a donc... Il y a donc 19 conseillers présents, le quorum est atteint, la séance sera donc valide. Voilà, je fais passer la feuille de présence pour signature. Secrétaire de séance qui se présente comme ça, Evelyne Kerol. Bon, qui s'abstient ? Qui est contre ? Bon, Evelyne Kerol, secrétaire de séance. Voilà, donc les pouvoirs reçus, on les a vus un peu tout à l'heure, mais enfin on va peut-être les annoncer à nouveau. Donc, pouvoir de Dominique Coulet. Pouvoir de Johan Boucli. Donc à Michel Arnoux. Pouvoir de Martine Barra à Patrick Stéphane. Pouvoir de Jean Enzi à Francis Panier. Pouvoir de Dylan Arnoux à Marie-Claude. Pouvoir d'Annie Carpentier à Cécile Raguido. Et pour le premier, je n'avais pas annoncé, c'était Dominique Coulet, pouvoir à Dolores Barouin. Voilà. Bien, l'ordre du jour de la séance. Donc l'ordre du jour de la séance, il y a d'abord l'élection d'un secrétaire de séance, auquel en fait on a déjà procédé. Ensuite, il y aura l'approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 3 juin 2014. La lecture des décisions droit de préemption urbain. La mise en place des rythmes scolaires, nouvelle activité périscolaire. Un point sur le service de restauration scolaire pour les enfants de l'école primaire, modification du règlement. La convention d'objectifs et de financement avec la caisse d'allocation familiale, donc prestation de service unique, ça concerne la crèche. La structure multi-accueil les petits châtelains, modification du règlement intérieur. L'adjonction d'un membre à la commission bâtiment et espaces verts. La désignation d'un représentant au conseil d'administration du CPIE. Il y aura ensuite, le point suivant, qui sont en fait des comptes rendus, je demande au conseil municipal l'autorisation d'ajouter deux points mineurs, en fait. Les points mineurs sont les suivants. C'est la convention de cession de la sirène du réseau national d'alerte. J'expliquerai un peu tout à l'heure de quoi il s'agit. C'est la sirène que jadis on entendait sonner tous les premiers mercredis du mois. Et puis ensuite, qui est contre l'ajout de ce point à l'ordre du jour ? Qui s'abstient ? Bon, donc ce point sera ajouté à l'ordre du jour. Et un deuxième point, il s'agit du tarif de location de la salle de la ferme à l'association Musique en Herbe pour la période du 5 juillet au 14 juillet. C'est une opération qui est reconduite d'année en année. Et donc, je propose d'ajouter ce deuxième point à l'ordre du jour. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bon, ce point sera donc inscrit. Deuxième point à l'ordre du jour. Ensuite, il y aura les comptes rendus de certaines réunions des organismes extérieurs. Ça, c'est de l'information. Un certain nombre d'autres éléments d'information, dont le rapport d'activité 2013 de l'entente Oise-Aisne, et puis une information sur un terrain dont RFF propose la vente. Voilà au moins deux points qui seront ajoutés. Voilà, donc, premier point de l'ordre du jour, donc l'élection d'un secrétaire de séance, donc Evelyne Kerol, ça a été fait. Deuxième point de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 3 juin 2014. Qui est contre ? Qui s'abstient ? D'accord, une abstention. Bon, qui est pour ? Donc 18 pour et... Enfin, plus que 18 pour, pardon. On va recompter avec les compteurs. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 24. C'est ça ?
18 et 6, 24. Oui, c'est ça.
Bon. Point suivant de l'ordre du jour, décision de droit de préemption urbain. Donc, je rappelle que ce droit de préemption, on a un papier à signer, un document à signer, comme quoi on préempte ou on ne souhaite pas préempter, pour la vente de tout ce qui est en zone urbaine. Donc, depuis le conseil municipal suivant, il y a donc eu des demandes de telles... D'abord, toutes les demandes que je vais lire, on a fait un droit de... Enfin, on a toujours dit qu'on renonçait à notre droit de préemption. Donc, il s'agit de Monsieur Charles et Madame ou Mademoiselle Formoso, 20 rue de Paris. Ensuite, Madame Baccarou, 3 impasse des Hirondelles. Mademoiselle Michèle Séverine, 11 rue des Remparts. Monsieur et Madame Pétilleux Christian, 18 bis rue Saint-Nicolas. Monsieur Serrin, 40 rue Saint-Nicolas. Messieurs et Madame Liénard, 63 avenue René Firmin. Monsieur Blanchard et Mademoiselle Gillet, 46 avenue René Firmin. Mademoiselle, Monsieur et Madame Graff Sylvain, 21 clos Charlemagne. Monsieur et Madame Atiwa Tami, 15 rue Marguerite Yourcenar, et la SCI Borval, 28 rue de la République. On passe au point suivant de l'ordre du jour, qui est la mise en place des rythmes scolaires. Oh, pardon. Je vous en prie.
Le maire, je vous fais remarquer qu'il n'y a pas eu de rapport de présentation ni de notice explicative pour le conseil municipal.
Oui.
Il serait souhaitable qu'il y ait une notice explicative et je demande que ce soit inscrit au procès verbal.
Pour quelle notice explicative pour?
Pour l'ordre du jour.
Tout le monde a reçu. Vous parlez de la note de synthèse?
Non, pas de. Je parle de la note.
Sauf M. Faux qui a pas donné.
Par rapport à l'ordre du jour.
C'est la note de Sequer. On lui fait parvenir les feuilles. Et comme c'est moi qui fais les convocations, j'ai envoyé un mail.
D'accord.
Et je demande à ce que ce soit inscrit.
Oui, oui, tout à fait.
C'est normal.
D'accord. Bah oui, c'est d'autant plus dommage ou regrettable que je pense que tous les autres conseillers l'ont reçu.
Non.
Vous avez par mail?
Il y a du mail, ça ne s'envoie pas par mail. Notice explicative, ça ne s'envoie pas par mail.
Et quand vous parlez de notice explicative,
c'est le rapport de présentation.
Enfin, c'est ce qu'on appelle note de synthèse, non? Pour la présente. Moi, je ne connais pas note explicative. J'ai vu écrit ce terme nulle part. Je connais note de synthèse pour un conseil municipal qui présente chaque point de l'ordre du jour.
Alors, on peut appeler ça une note de synthèse.
C'est bien de ça dont vous parlez.
Note de synthèse, rapport, notice explicative, rapport de présentation, enfin, ça, différent, enfin, pour ça, je...
Alors, qui ne l'a pas eu?
Qui ne l'a pas eu?
Non, par mail, tout le monde l'a vu, sauf M. Fleury, parce que c'est moi qui ai fait les convocations.
Je ne reçois pas de mail, mon mail est en rade. J'aurais vraiment dans 8 jours.
Non, mais une notice explicative ou une note de synthèse, ça ne doit pas être envoyée par mail. C'est une note qui fait partie de la convocation. Donc elle doit être envoyée sur papier.
Bon, dont acte, on note ce point.
Par mail, c'est bon de l'envoyer si on a un accusé réception.
Vous n'avez pas reçu par mail, monsieur
l'ami ? Il y a des gens qui peuvent refuser les accusés réception. Et dans ce cas-là, on n'a pas de preuve de l'envoi.
Non, mais la ville est trop riche. On va l'envoyer par, on va mettre des timbres et puis on enverra maintenant par courrier. Mais
alors,
on peut faire plein de remarques, mais
ouais,
c'est
mais
je
comprends.
C'est envoyé par courrier.
Ouais.
C'est distribué par courrier. Donc c'est normalement c'est dans la même enveloppe et tout.
Tu l'as pas eu avec, par contre, t'as pas eu les éléments.
D'accord.
Non. Non, parce que c'est moi qui fais les convocations parce que Carole elle est pas là. Donc moi j'ai fait les convocations papier pour tout le monde. J'ai fait l'envoi par mail des notes de synthèse à la base de données conseil municipal. Sauf que vous, Monsieur Fleury, vous n'avez pas de mail. Et Carole, elle vous donne d'habitude en papier. Et moi, je ne vous ai pas donné en papier, c'est exact. Par contre, la note de synthèse, on peut effectivement l'envoyer par mail, à condition que la mairie ait un accusé de réception qui puisse prouver que l'envoi a bien été fait. Il n'y a pas de problème pour envoyer et les convocations et la note de synthèse par mail. Ça, on l'avait vérifié auprès de l'Union des maires de l'Oise. Par contre, il faut qu'on conserve la preuve que ça a été fait. Et là, je suis d'accord, vous ne l'avez pas eu.
Tu as fait ça sur les questions de convocation, si je peux me permettre. Parce que les convocations, ça doit, on doit avoir un accord écrit de chacun des élus qui doit préciser son adresse. La loi, elle précise. Alors, moi, sur ce point-là, c'est l'adresse du choix de l'élu.
C'est pour ça qu'on a fait passer l'adresse.
Non, je précise quand même que, voilà, ensuite, la jurisprudence, elle tolère, effectivement, que ce soit l'adresse mail.
Il n'y a que M. Fleury qui n'a pas donné son adresse mail. Les autres l'ont donné.
C'était dans la première séance. Hein. Donc, vous avez dû donner la vôtre, M. Fleury.
Note de synthèse.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est...
OK.
C'est de ma faute. Hein. C'est Carole d'habitude qui le fait. Et bon, là, c'est vrai que je ne vous ai pas envoyé les feuilles. Donc, on le consignera au PV.
Voilà, mais ça ne concerne pas tous les conseillers municipaux. Et l'envoi par mail est effectivement une procédure qui est recevable, comme...
Si tout le monde est d'accord.
Si on est récipiendaire, on est d'accord.
Oui, si ceux qui le reçoivent en sont d'accord. Hein. Bon.
Pour la transmission par mail.
Comment ?
Je le dis parce que je l'ai fait sur ma structure.
Bah, on fera un accord écrit, je pense que voilà. Pour ceux qui souhaitent le recevoir, pas par mail, mais sur papier. Voilà, je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour. Donc la mise en place des rythmes scolaires, nouvelle activité. Bien, ben je poursuis donc sur l'ordre du jour et sur le point suivant de l'ordre du jour. Je trouve mon ordre du jour d'ailleurs. Enfin, j'ai plein de choses notées sur le mien. Voilà, tout est là. Donc encore une fois, la mise en place des rythmes scolaires et les nouvelles activités périscolaires. Alors pour revenir sur ce qui s'est passé dans ce cadre-là, lors du dernier conseil municipal, donc, vous avez donné l'autorisation à ce qu'on demande justement l'autorisation à l'inspection académique de bénéficier des assouplissements proposés par le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Et dans ce cadre-là, nous avons demandé, enfin, c'était l'autorisation que nous avons eue, pour demander le regroupement des nouvelles activités périscolaires sur 3 heures le vendredi après-midi. Et ce, pour une durée de 1 an. Alors en fait, nous avons reçu le 27 juin un courrier du directeur académique des services de l'éducation nationale qui nous informait qu'il avait émis un avis favorable, mais toutefois qu'on devait rester en attente de la validation du conseil départemental de l'éducation nationale qui se réunirait le 27 juin. Le 30 juin, donc lundi, nous avons eu une réponse orale de ce conseil du directeur académique des services de l'éducation nationale. Et à ce jour, nous attendons, alors, réponse orale comme quoi le projet a été validé par le conseil départemental de l'éducation nationale. Et à ce jour, nous attendons la confirmation écrite de cette validation. Bon, toutefois, on continue le processus parce qu'on voit qu'on est dans la dernière semaine scolaire et qu'on doit mettre en place ces nouvelles activités périscolaires à la rentrée à partir du 2 septembre. Donc sur ce point-là, aujourd'hui, la MJC est déjà en charge en fait, du périscolaire sur la commune de Ververie. Il est donc logique de lui confier la gestion des nouvelles activités périscolaires, NAP, dont la mise en place découle de la réforme des rythmes scolaires. C'est la solution vers laquelle nous nous orientons, d'autant plus que le versement de la subvention CAF, 50 centimes par heure par enfant, nécessite un agrément dont dispose la MJC et dont ne dispose pas la mairie. Je souhaite recueillir l'avis du conseil municipal sur cette proposition, qui fera l'objet d'une convention spécifique entre la commune et la MJC. Cette convention sera proposée lors du prochain conseil municipal, qui se tiendra, sauf événement imprévu, le lundi 1er septembre 2014 à 20h. Voilà, j'ajoute que des personnels communaux, ATSEM, éducateurs physiques, personnels de la bibliothèque, prendront en charge une partie des activités, des nouvelles activités périscolaires pendant les 3 heures du vendredi après-midi. Maintenant, je laisse la parole à Laurent Baumler, adjoint aux affaires scolaires.
Ben, que dire de plus ? Donc Michel l'a rappelé, on est en attente de l'accord écrit, mais normalement bon, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes puisqu'on l'a eu oralement. Dès le premier vendredi donc, de la rentrée, donc cette fois ça y est c'est sûr, il n'y aura plus d'école donc, pour les enfants. Et donc il y aura la MJC qui va proposer donc, tout un tas d'activités. On a travaillé donc, ensemble avec la MJC, les parents élus, le corps enseignant, différents intervenants. surtout qui existait déjà donc, sur la commune pour limiter un petit peu donc, le coût par rapport à cette nouvelle réforme. Par rapport aux documents que vous avez, il y a eu quelques petites modifications, puisque bah, évidemment ça évolue tous les jours avec différents intervenants, etc. Donc il n'y aura pas l'activité qui nous venait de... le professeur de dessin, ça n'a pas été retenu. À côté de ça, on a en revanche une activité qui proposera de faire de la radio aux enfants, donc des petits ateliers radio en fait. Et donc c'est RVM Radio qui assurera donc, cette activité pour un montant de 3400 euros. Sinon, non, je n'ai pas d'autre chose à dire. L'essentiel.
Peut-être récapituler un peu l'ensemble des activités qui vont être proposées.
Oui, alors l'ensemble des activités, donc on aura Marie-Françoise Ducrot qui s'occupera essentiellement, alors c'est pas encore définitif, hein, mais ça s'oriente vers ce schéma-là, qui s'occupera des maternelles. Nous aurons deux intervenants sport, donc qui seront Franck Renou et puis une association, donc l'APSLO, qui s'occuperont eux essentiellement des primaires, qui proposeront tout un tas d'activités. Franck a essayé de trouver des activités que les enfants ne font pas en ce moment à l'école. Nous aurons ensuite, donc là c'est en cours de voilà, en cours de négociation, mais bon, il y a encore des choses à faire, mais on s'oriente vers les ATSEM, les dames des maternelles, qui ont proposé donc de faire un roulement en fait entre le personnel. Donc on s'oriente vers deux ATSEM qui garderont les enfants pour la sieste, pour les tout petits, la maternelle, et puis qui s'en occuperont dès qu'ils vont se lever, etc. etc. Donc, voilà, c'est encore en cours, mais normalement on s'oriente vers ça. En ce qui concerne la MJC, là c'est le plus gros morceau, puisqu'il y a il y aura normalement entre 8 ou 9 animateurs, donc avec des activités diverses et variées, peinture, activités sportives, culturelles. Bon, là c'est le métier de la MJC tous les jours, hein, donc pas de souci là-dessus. Nous aurons deux. Donc la MJC se partagera ses animateurs entre les enfants de la maternelle et les enfants du primaire. Ça devra faire à peu près deux animateurs pour la maternelle et le reste pour le primaire. Nous avons deux intervenants du CPIE qui interviendront, un pour les petits et un pour les primaires. Il faut préciser quand même que le CPIE ben, nous prête deux animateurs gracieusement, donc il n'y a pas de tarification qui est liée à ça. L'animateur sportif, donc la PSLO, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous aurons deux professeurs de musique qui nous viennent de l'association musicale de la Croix, parce que l'association musicale de Vergovie, ils avaient d'autres plannings, donc voilà, on ne peut pas faire avec tout le monde. Donc une animateur pour les petits et une animatrice pardon pour les petits et une animatrice pour les plus grands. L'activité donc de radio, et puis nous avons aussi une association qui s'appelle Lire et faire lire, où là ce sera des bénévoles qui vont intervenir auprès des petits et des plus grands pour leur lire des petits livres, etc., des ateliers sur les livres, toutes ces choses. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Alors j'ajoute naturellement que, initialement, lorsqu'on a écrit le papier, ça doit être écrit dans le papier, il y a des tarifs qui sont fixés, en fait, 15 euros de participation pour les...
Oui, ce sont des bases de travail.
Hein. Voilà, c'était des bases de travail pour les familles, globalement, qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, et 5 euros pour les familles qui ne le sont pas. Il est clair que comme on passe une convention avec la MJC, c'est la MJC qui fixera les tarifs, mais elle s'oriente exactement vers les mêmes tarifs. Voilà, ça c'est
par
important.
Mois. Par, oui, oui.
J'ai
par
dit
mois.
Par quoi?
Par rien.
Par mois.
Par mois.
Par mois. Oui.
Vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a une différence entre des gens qui payent des impôts et des gens qui ne payent pas d'impôts?
Bah, c'est simplement une adaptation au niveau de vie des personnes pour permettre au plus... pour permettre aux plus modestes de participer à ces nouvelles activités périscolaires.
Sachant qu'au départ, quand même, l'éducation nationale assurait gratuitement la prise en charge des enfants. Donc, ça paraît compliqué. Et en plus, quand une subvention CAF, on est tenu de respecter les ressorts familiaux, à savoir que les familles aux faibles revenus, jusqu'à présent, on payait toujours moins cher le repas de cantine, les activités du périscolaire, mais ça n'a rien de particulier par rapport à ce qui se faisait partout et qui se fait jusqu'à présent de façon tout à fait légale.
Et les gens, les parents d'enfants sont d'accord
Écoutez, les parents d'enfants ne sont pas d'accord en ne mettant pas l'argent ensemble.
Il y a eu quand même plusieurs réunions entre les parents et nous.
Il faut savoir que l'école est gratuite jusqu'à...
Oui, c'est pas nous qui avons fait la réforme.
Enfin, il y a quand même certaines voies.
Il ne faut pas non plus priver, parce que les parents sont modestes, priver les enfants des familles modestes, des activités, des veilles, tout ce qui est prévu par la réforme des rythmes scolaires. Cette réforme, on l'approuve ou on ne l'approuve pas, mais à partir du moment où les communes sont tenues de mettre en place ces rythmes scolaires, on essaie de faire au mieux en respectant les ressources des uns et des autres.
Alors la commune est enfin tenue d'appliquer la réforme des rythmes scolaires. Il est vrai que le périscolaire, c'est pas une obligation en fait. On a choisi de le faire, comme beaucoup de communes, dans ce cadre-là. Pour répondre à ta question, il y a eu plusieurs réunions avec les parents d'élèves, et évidemment, on a abordé ces sujets-là. Et d'ailleurs, demain, on abordera à nouveau ces sujets-là. Le dernier point, c'est que 15 euros, je rappelle que c'est l'équivalent de 2 paquets de cigarettes. Voilà. C'est une comparaison comme une autre.
Si les gens sont d'accord,
tous ne le sont pas forcément.
Non.
Vous avez fait un détail du budget global entre justement cette rentrée-là, la dépense complète.
Oui, donc,
le reste à charge estimé, ça te convient ?
Il y a encore des choses qui vont évoluer. Il y a des choses qu'on est en train de calculer avec Mme Jablot parce qu'il y a du personnel qui sera sur cette affaire-là et c'est difficile au niveau du nombre d'heures. On aura un chiffrage beaucoup plus précis à la rentrée parce qu'on aura un nombre d'enfants précis et là on saura exactement le nombre d'animateurs. Pour l'instant, on est parti de choses que l'on connaît. On est sûr à 100% et pour le moment, on est quasiment à 27 000 euros.
De dépenses.
Ça comprend
Plus les salaires qui sont à chiffrer des gens de la mairie qui travaillent, qui participeront. Voilà, donc ça, on fera le calcul au 1er septembre. Je pense qu'on pourra établir éléments précis là-dessus.
Et cette dépense, c'est 20 000 pour le moment.
Il y a 20 000 de l'aide de l'État et il y aura donc 13 500 que touchera la MJC puisqu'il touche 50 centimes de l'heure par enfant.
Sur une hypothèse de
250 enfants, ça fait 13 500 euros de perception par la CAF à la MJC. Donc, à cela vient s'ajouter la participation des parents. Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas encore définir le nombre d'enfants exact.
25 000 euros.
Pardon ?
Il y a marqué proposition de travail pour les parents, 25 000 euros, 250 par 10 mois.
Oui, enfin, c'est une estimation.
Il y a 6 mois sur le niveau scolaire.
Pardon ?
Si, il n'y a pas 10 mois.
Septembre à juin.
36 vendredis concernés. On va faire prendre une tarification, MJC. Oui, on a
début.
Oui, mais si vous voulez, on a raisonné en mois, les parents perdent en mois normalement. La MJC est partie sur ce mode de calcul.
C'est celui qu'elle applique dans d'autres, pour les autres activités.
C'est-à-dire que pendant les vacances de Noël ou les vacances de Pâques, ils paieront quand même s'ils n'y vont pas.
Oui, mais ils ne paieront pas juillet-août.
Oui, mais j'entends bien. Mais les petites vacances, ils paieront quand même alors qu'ils n'y vont pas.
Oui, mensuel,
oui,
c'est un coût forfaitaire mensuel.
Oui, c'est un coût forfaitaire mensuel.
C'est un coût qui doit être intégré dans le coût global. C'est-à-dire que les vacances scolaires de Noël, de Pâques, de la Toussaint, etc., vous considérez
On a raisonné avec la MJC, les parents élus et les corps enseignants qu'il y avait 36 vendredis concernés. Voilà.
Et vous considérez donc qu'il y aura 250 enfants?
On a fait un sondage.
Voilà. Il y a un sondage qui a été fait auprès des parents.
Questionnaire envoyé, plus qu'un sondage.
Un questionnaire qui a été envoyé. On aurait à peu près, ça va se répartir de la façon suivante, 100 enfants à la maternelle et 150 enfants pour les primaires.
Mais tout ça, c'est de l'estimatif.
Et le 15 euros par mois, c'est pour un souci de simplification de gestion de la MJC.
Oui, tout à fait, c'est ça. C'est la MJC qui proposait, pour répondre à M. Flory, c'est ce qu'on disait, c'est que pour une question de
simplification,
de simplicité au niveau des comptes et des paiements, etc., ils ont fait au moins, comme ce que c'est aujourd'hui au niveau du du périscolaire.
Oui, bien sûr, c'est la MJC qui va gérer. On va subventionner la MJC par rapport au déficit du périscolaire.
Absolument.
Oui,
oui, tout à fait.
Oui, tout à fait.
C'est après, il y aura un arrêté analytique qui sera fait de cette opération-là en fin d'année et un reversement qui sera fait de subventions exceptionnelles pour compenser l'opération.
Ouais. Oui, c'est à ce niveau-là qu'on ne connaît pas le montant.
Aujourd'hui, on ne le connaîtra pas, mais début septembre, on devrait pouvoir l'avoir, puisqu'on aura des chiffres précis. Aujourd'hui, on ne les a pas. On ne sait pas aujourd'hui combien il y a de personnes qui sont imposables, combien de personnes sont non imposables, donc les chiffres...
Si sur ce schéma-là, vous avez uniquement 30% de personnes imposables, donc c'est sur elle que repose la totalité du coût du service.
Non, on est parti sur une étude qui est officielle et où ça ressort sur un petit peu plus de 53 ou 54% des foyers imposables sur Verdelet. Voilà, donc on a pris 50%. Ça nous donne quand même en tendance.
Une bonne tendance. Ceci dit, après, on peut toujours... Oui, de toute façon, il s'agit d'une expérimentation aussi. Donc,
on l'a pris que sur un an.
Voilà. Et on l'a pris que sur un an.
Tout à l'heure, on sous-entendait un principe de solidarité, parce que j'entends totalement, mais il y a d'autres moyens de financer un service pour le rendre tout à fait solidaire. Ça, ça pose sur une... Pour le coup, une très petite minorité.
Ça, c'est ma position personnelle, monsieur Van. J'exprimais une position... Quand on a dit pourquoi est-ce que les gens qui sont imposables, ils payent moins que les autres, j'ai simplement expliqué, vous le savez très bien, c'est comme ça depuis de très nombreuses années en France. Il y a un quotient familial et les tarifs des services publics, parce qu'on a un service public, il y a une solidarité qui joue entre ce qu'on appelle le public favorisé et les personnes imposables.
Bon, voilà. Mais il n'y a pas obligation.
Il n'y a pas obligation.
Il n'y a pas obligation d'ailleurs. Non. Oui, mais à partir de sur les cases de neige, on n'avait jamais voulu... faire comme ça, car à la fin, vous avez les personnes qui sont imposables qui arrivent à payer, puisque eux sont toujours imposables de tout et à payer plus que ceux qui ne sont pas imposables, hein, puisque eux payent toujours, et puis il y a une partie de l'obligation. C'est pour ça que c'est un choix, c'est pas une obligation.
Non,
hein. C'est un choix du conseil municipal, que ce soit. Avec un quotient familial ou sans quotient familial.
C'est quand même un choix très répandu.
Ceci dit,
c'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait. Jusqu'ici, il n'y avait pas de quotient familial sur les tables de neige.
Sur la banquise, sur les autres services, la MJC, il n'y avait pas de.
Il n'y a pas de quotient familial, mais on peut constater que dans les restes à recouvrer, les gens qui n'ont pas la possibilité de payer n'ont pas payé. Donc ça revient au même. Hein. Les gens n'ont pas payé. Donc on ne met pas de quotient familial, mais les gens ne payent pas.
C'est pour ceux qui payent pour ceux qui ne payent pas.
Mais on le retrouve d'un autre côté. Donc, mais au moins, c'est.
À la fin, les impayés sont remis sur ceux qui payent.
C'est une façon déguisée de dire ben voilà, tout le monde a la même. La même chose, mais les gens ne payent pas. Donc, c'est quand même ceux qui payent, c'est ceux qui ont la possibilité de payer qui payent pour ceux qui ne l'ont pas, à mon avis.
Moi, de toute façon, c'est les CAS qui payent.
Ceci.
Ou si les produits non recouvrés. Ouais. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a des situations qui existent et que les communes doivent gérer. Et vous le savez très bien, vous savez, monsieur Lamy, j'ai jamais vu ça respect à part prendre la vie de François de Maxence.
Non.
Vous gérez. La communauté de communes, vous en avez à faire. Donc, vous savez
pas ça se passe.
Oui, la communauté de communes, c'est la communauté de communes qui gère tout ce qui est.
Ceci dit, je reviens à la question de départ qui était posée là. C'était de recueillir l'avis du conseil municipal sur le fait de confier à la MJC ses nouvelles activités périscolaires. Je rappelle que c'était motivé par plusieurs points. C'était un des points, c'était l'expérience qu'a la MJC dans ce domaine-là. Et un autre point, c'est que c'est la seule, enfin, dans notre cas, qui a un agrément qui lui permet... de récupérer la subvention de la CAF.
Et d'agir au pied levé.
Donc c'est la question. Ça, c'est la question. Est-ce que l'on confie à la MJC les activités périscolaires?
Oui, c'est un avis là. De toute façon, il y aura la convention au 1er septembre.
Ça, c'est la question que
On vous raconte. Oui. Voilà, donc je pose la question, qui est défavorable a confié cette activité à la MJC, qui est favorable à confier cette activité à la MJC.
Bien. On pourrait préciser, s'il vous plaît, que, évidemment, on lui met une réserve sur la question du financement du service. Donc, sur la question, nous sommes tout à fait d'accord, mais au compte rendu, qu'on lui met une réserve sur son financement.
Préciser,
qu'est-ce que vous voulez dire comme réserve,
les réserves, s'il vous plaît.
On attend simplement d'avoir le budget, effectivement, de base.
Oui, d'accord. En attendant d'avoir du budget.
Et ensuite, bien évidemment, sur la question globale du financement, peut-être qu'on va discuter. Savoir, aujourd'hui, est-ce que la méthode du financement, notamment auprès des familles, est-ce la meilleure dont chez moi vous proposez, c'est tout.
Et est-ce que vous pouvez proposer quelque chose?
On peut tout à fait discuter, oui.
Parce qu'on a eu une commission scolaire, donc c'est assez surprenant.
Excusez-moi, mais je fais partie du conseil, je ne suis pas forcément à d'autres réunions, mais j'ai pourtant le droit d'ouvrir, donc de discuter quelque chose.
Non, mais je vous dis qu'on a eu une commission scolaire qui s'est réunie et vous étiez représenté, et à tous les sujets ont été abordés sans aucun souci.
Oui. Alors, ceci dit, on a quand même, je ne sais pas quelle est votre inquiétude derrière, sur la premier volet de la question, c'est-à-dire préciser le budget, je crois quand même qu'on a pris un certain nombre de précautions pour que, justement, la commune se retrouve de manière équilibrée dans cette affaire.
Mais je ne mets pas en quelconque accusation, c'est simplement pour prendre une décision, il nous semble qu'effectivement, pour le faire sereinement, encore faut-il avoir tous les éléments, donc, simplement, on met ce format.
Voilà. Et que de toute façon, quant au financement, bah, ce sera la MJC quand même qui décidera du financement au final.
En même temps, je crois qu'on commande, d'une certaine manière, on commande un service, c'est que sans doute là.
Du point de vue juridique, du point de vue juridique, c'est la MJC qui décidera. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas notre mot à dire, mais qui décidera effectivement de. La manière dont on finance ça.
Dont elle récupère le coût du service engagé. C'est
comme vous voulez.
Pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil.
Bon, ceci dit, donc, l'avis est favorable sur le fait de confier ce service à la MJC à l'unanimité. Bien, on aborde le prochain point de l'ordre du jour. Donc, c'est un peu lié quand même au rythme scolaire. Ça touche au service de restauration scolaire pour les enfants des écoles primaires. Et notamment une modification du règlement de la restauration scolaire. Alors, dans les modifications de ce règlement, il y a plusieurs points. Il y a un point qui touche à des horaires, puisque aujourd'hui, il y a une rectification d'horaires de fonctionnement, mais qui en fait date de plusieurs années. Donc il s'agissait simplement d'une mise à jour pour dire que le service pour le déjeuner, c'était de 11h45 à 13h20. Ça, c'est un point technique. L'autre point, évidemment, c'est dans admission, et il y a eu un ajout, c'est que suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et des nouvelles activités périscolaires, le vendredi après-midi, les parents, lors de leur inscription, devront choisir de mettre leur enfant 3 ou 4 jours à la restauration scolaire, soit le lundi, le mardi et le jeudi, soit le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et c'est un engagement qui sera pris pour la totalité de l'année scolaire et ne pourra pas être modifié. Donc c'est un autre point de modification. Il s'agit en fait de pouvoir laisser partir dès la fin du temps scolaire, le vendredi midi, les enfants qui ne participeraient pas aux nouvelles activités périscolaires et qui seraient d'autre part inscrits à la cantine. Voilà. L'autre modification, elle ne fait que reprendre celle-ci. Un enfant inscrit devra par conséquent fréquenter la cantine durant la totalité de la période pour les 3 ou 4 jours d'école par semaine qui auront été fixés, sauf cas dérogatoires prévus ci-dessus, les cas dérogatoires étant ceux qui étaient déjà dans le règlement. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient, qui vote pour cette modification du règlement. Bon, donc le règlement La modification du règlement est adoptée à l'unanimité. Sixième point, convention d'objectifs et de financement avec la caisse d'allocation familiale pour la prestation de service unique qui est liée en fait au fonctionnement de la crèche. Alors je rappelle que la CAF donc, vient d'adresser à la commune la nouvelle convention d'objectifs et de financement, prestation de service unique, relative aux services de crèche pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Quelque part, cette convention, elle nous est imposée par la CAF si on veut continuer, donc la caisse d'allocation familiale, les caisses, si on veut continuer à bénéficier des versements qui sont faits par cet organisme pour le fonctionnement de la crèche. Je rappelle qu'en 2013, les caisses d'allocation familiale ou la caisse d'allocation familiale a versé 92 000 euros pour le fonctionnement de cette crèche, les familles 66 000 euros et la commune 62 000 euros pour équilibrer le budget. Donc sur un coût total de 220 000 euros, la CAF participe pour 92 000 euros à ce fonctionnement. J'ajoute enfin que dans ce renouvellement, parce que finalement il s'agit d'un renouvellement, d'une convention, il n'y a pas eu de modification par rapport à la convention qui pouvait exister auparavant. Voilà. Il me semble quand même qu'on ne peut pas fonctionner aujourd'hui au niveau de la crèche sans le partenariat de la CAF. Qui vote contre ?
C'est beaucoup plus important avant.
Alors, et qui, donc, dans la lumière de ce que vous dites, qui va sans doute, malheureusement, continuer à se dégrader. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Donc, vous m'autorisez donc à signer la convention d'objectifs et de financement de prestations uniques à l'unanimité. Modification du règlement intérieur de la structure d'accueil Les Petits Châtelains. Alors, ces modifications interviennent à la suite d'une visite de la caisse d'allocation familiale de mars 2014. Ce sont des ajustements qu'on peut qualifier de mineurs. Ah pardon, alors j'ai dit quoi ? J'ai dit visite, non, contrôle.
Contrôle complet.
Contrôle hein, de la caisse d'allocation familiale. Donc il y a une première, un premier point qui nous demandait d'ajouter que le contrat était... voilà, ce contrat peut être revu en cours d'année à l'exception de cas particuliers, perte d'emploi, changement de situation familiale, et on nous a demandé d'ajouter « contrat inadapté aux heures de présence réelle de l'enfant ». Ensuite, il y avait un autre point, c'est qu'il n'y a pas de déduction pour convenance personnelle ou congé supplémentaire dans un certain nombre de cas. Et on nous a demandé de retirer un point qui était éviction par le pédiatre de la crèche. C'était une des raisons pour lesquelles il pouvait y avoir effectivement déduction. Voilà, autre point pour la participation financière des familles, on nous a demandé de compléter le tableau pour le nombre d'enfants de 6 à 10, donc pour les très grandes familles. Je ne pense pas qu'il en reste beaucoup. Autre point, donc on nous a demandé aussi de supprimer un paragraphe qui était relatif aux médecins qui intervenaient dans le cadre de la crèche. Ce médecin faisait une visite initiale avant que l'enfant ne soit admis à la crèche, ce qui permettait de contrôler son état de santé. Bon, suite à... Le dernier médecin s'est retiré il y a pas mal de temps. Il y a eu une recherche qui a été lancée, elle a été infructueuse, et aujourd'hui on ne trouve pas de médecin pour remplir ce service. Donc la CAF nous a demandé de retirer simplement ce paragraphe du règlement. Ensuite, il y a eu une reformulation simplement d'un paragraphe qui était le paragraphe départ définitif. Bon, c'est simplement une reformulation, il n'y a aucun changement de sens. Je lis quand même la reformulation. Lors d'un départ définitif, un préavis sera exigé. 3 mois pour convenance personnelle, 1 mois pour raison sociale, preuve à l'appui. Dans le cas de non-respect de ces clauses, les mois seront dus. Voilà. Et puis, il y a eu l'adjonction d'une annexe relative aux ressources à retenir pour la fixation du tarif. Avant, elles étaient incluses dans le texte même du règlement. Et là, elles ont été placées en annexe simplement pour les problèmes de modification éventuelle que nous n'ayons qu'à modifier l'annexe. Voilà, ces revenus, c'était les ressources mensuelles planchées, qui aujourd'hui est de 629,13 €, donc qui est la somme à partir de laquelle on commence à demander aux familles de payer, et la ressource mensuelle plafond de 4 811,83 €, qui est la somme au-delà de laquelle on paye le maximum. Voilà, donc là on voit que, ben oui, il y a des coûts qui sont fonction des revenus des familles. Très bien. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Bon, à l'unanimité. Donc, le règlement, je signerai ce règlement modifié, il vient d'être approuvé par le Conseil municipal à l'unanimité. Commission bâtiment espace vert. Donc, aujourd'hui, la commission Espace Vert est composée de 8 membres. Francis Panier, Jean Enzi, Laurent Sabna, Martine Barra, Jean-Claude Lemercier, Michel Biez, Dominique Coulet, Lisiane Grosbon. Voilà. Monsieur Patrick Sauvage, qui est membre du conseil municipal et conseiller municipal sécurité, souhaite rejoindre cette commission et a demandé à monsieur le maire de mettre cette question à l'ordre du jour, ce que j'ai fait. Effectivement, dans le domaine de la sécurité, parfois il y a une interaction avec les bâtiments et les espaces verts. On a parlé, ou on va parler, de la sirène du réseau national d'alerte, par exemple. On pourrait parler aussi du plan communal de sauvegarde. Il y a donc des interactions. Donc moi, je propose, je suis tout à fait favorable à ce que M. Patrick Sauvage intègre la commission bâtiments et espaces verts. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Donc Patrick Sauvage fera partie, appartiendra désormais à la commission bâtiments et espaces verts. Point suivant de l'ordre du jour. Désignation d'un représentant au conseil d'administration du CPIE. Donc nous avons eu un courrier de M. Pinjot qui est président du CPIE et qui nous demande de désigner au conseil d'administration un membre, désignation justifiée par les statuts du CPIE, un membre du conseil municipal. Voilà. Qui se présente ?
Othilla.
Très bien. Bien. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, Oudy Larnoux sera donc le représentant du conseil municipal au conseil d'administration du CPIE. Maintenant, nous abordons les points qui ont été rajoutés à l'ordre du jour, c'est-à-dire la convention de cession de la sirène du réseau national d'alerte. Donc, je ne sais pas si chacun le sait, mais je suppose que c'est le cas. Il existe sur le territoire de la commune une sirène qui appartenait à l'État ou qui appartient toujours à l'État, qui était, dont le fonctionnement était en fait, enfin maintenance, etc., était assuré par France Télécom. Cette sirène faisant partie du réseau national d'alerte qui était situé dans les locaux de l'ancienne mairie, qui est le siège actuel de la CCBA. Donc France Télécom, évidemment, se retire de cette prestation de service public. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça c'est un peu historique, je rappelle que ce réseau national d'alerte avait été mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc on était clairement dans un autre contexte, voire dans un contexte de guerre froide. C'était sa justification. Il a été, bon, ça a été Ça s'est poursuivi puisqu'on a quand même trouvé que s'il y avait des problèmes qui nécessitaient des réactions, des dysfonctionnements urgents, des accidents qui nécessitaient des réactions dans l'urgence, le meilleur moyen de prévenir la population, c'était quand même d'avoir une sirène qui alertait la population. Aujourd'hui, ben c'est vrai que c'est moins prégnant. Pour nous, je ne pense pas qu'on puisse dire que s'il y a risque d'inondation, on est quand même en risque d'inondation qui soit un événement à croissance très rapide. Par contre, la commune est parfois traversée par des convois de transport de matières dangereuses. Donc dans ce cas, on n'est pas à l'abri un jour, et personne ne le souhaite, d'un accident avec un tel chargement. Et dans ce cas-là, la sirène sera un moyen intéressant. Son utilisation est d'ailleurs prévue au plan communal de sauvegarde. Donc ça reste un moyen intéressant. Alors que nous propose l'État, parce que c'est quand même lui qui propose, il nous propose en fait de nous transférer la propriété de cette sirène, dont la maintenance sera évidemment à la charge de la commune. C'est une cession gracieuse, bon, heureusement. Donc dans le cadre d'une convention. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il proposait de la démonter aux frais de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ceci dit, immédiatement, l'État a ajouté que cette solution, dont elle assure le financement, ne serait assurée que pour les sites dont la sécurité est menacée, c'est-à-dire que la sirène menace de tomber sur la voie publique ou je ne sais où, et donc de constituer un danger pour la population. Et la dernière option, puisqu'ils mettent en place un système beaucoup plus moderne, qui est assuré par une société privée, un système qui s'appelle SAIP, système d'alerte et d'information des populations, système qui est en train de se mettre en place, je crois qu'il est en place aujourd'hui à Pont-Sainte-Maxence, il est également en place à je ne sais plus si c'est Villars-Saint-Paul ou Trois-Libreuil. Enfin, il y en a un où c'est en place et l'autre, ça doit être mis en place dans les deux. Toujours est-il que se coupler à ce système, c'est d'un coût qui varie, donc de se raccorder entre 7 000 et 21 000 euros. Donc, je propose à l'Assemblée de rester dans le premier cas, c'est-à-dire que nous récupérions ce système qui sera cédé gracieusement à la commune sur la base de la convention de cession à l'amiable. Voilà. Et de m'autoriser, par là, à signer la convention de cession de la sirène à venir, qui était jointe en annexe. Enfin, c'est une convention tout à fait classique dans ce cadre-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on devra en assurer la maintenance. Voilà. J'avais demandé lors de la réunion, il semble qu'il regarde ça, s'il pouvait y avoir quand même, le système de maintenance, puisque la plupart des communes qui étaient présentes à la Réunion s'étaient clairement orientées vers la première solution, que le système de maintenance pouvait être peut-être un système de maintenance partagé entre toutes les communes et qu'on fasse appel tous quelque part au même contrat. Voilà, donc...
Le système de fonctionnement sera assuré par nous-mêmes.
Alors le système de fonctionnement, le déclenchement est manuel.
Donc par nous.
Par nous.
Est-ce qu'on a une idée de l'état de cette sirène aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, l'état de la sirène, eh bien, je crois que...
Alors, l'état de fonctionnement. Voilà. Alors, en état, il n'y a pas de, de risque qu'un jour on la retrouve de travers.
Non, puisque j'ai fait monter un couvreur lors des derniers épisodes de grêle, et j'en ai profité pour lui demander s'il n'y avait pas de soucis. Il a été monté voir, il m'a assuré tout allait bien. Et que ce soit pour la partie électrique, c'est du parfait état. J'ai découvert très très dernièrement un boîtier dans la cave du bâtiment et c'est un travail remarquable.
Et la mise en route de cette sirène se fait où à la CCBA ?
Mais c'est ce qu'on vient d'expliquer, oui.
Alors il y a deux points à la CCBA, un point au premier étage, à l'entrée du bureau des secrétaires, et un autre point qui se fait donc dans le garage, donc dans le sous-sol.
Alors, qui est responsable de la mise en route
Et les clés, qui va gérer les clés ?
C'est qui va gérer la mise en route de la sirène ? Parce que là, dernièrement, il y a eu un incendie.
Et si vous me laissez finir, il est prévu et convenu avec M. le maire qu'un report extérieur sous coffret avec brise-glace soit mis en place lorsque vous aurez pris votre décision. Puisque nous ne pouvions pas faire de travaux sans savoir quel était votre avis que vous allez donner dans quelques instants sur cette sirène.
Oui.
Les bâtiments de la CCBA, nous sommes propriétaires.
Oui.
Bon, d'accord. Une question par rapport à la responsabilité, puisque si on prend en compétence, forcément derrière une potentielle responsabilité, donc qu'en est-il ?
La responsabilité de déclencher, c'est ça ?
Certes, de déclencher, éventuellement en termes de défaillance, si demain un accident devait avoir lieu, où on est, comment est placé le curseur responsabilité ?
Le curseur responsabilité, clairement, c'est le maire qui va être responsable.
Voilà. C'est dans le plan de sauvegarde, ça, de toute façon.
Oui, c'est dans le plan de sauvegarde.
Responsabilité de la sirène qui tombe, c'est que ça ne marche pas. Responsabilité du non-déclenchement en cas d'accident majeur.
Ouais, c'était
ma question. Alors, quelles seront les personnes habilitées à enclencher la sirène ? Qui sera habilité à le faire ?
C'est dans le plan de sauvegarde. C'est dans le plan de sauvegarde que ça va être modifié tout ça.
Alors, ça tombe bien parce qu'on va remettre à jour le plan communal de sauvegarde. Donc c'est un point qui va être clairement abordé. Voilà. Bah oui, c'est la responsabilité du maire. Ça c'est clair. Maintenant, ce sera un moyen d'alerte parmi d'autres. Hein. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens d'alerte. Il peut y avoir le SMS, c'est un moyen d'alerte. Hein.
Mais c'est une bonne chose de garder un engin manuel autre que l'électronique.
On est d'accord.
Attention, juste une petite... il faut obligatoirement qu'il y ait l'électricité. Elle n'est pas manuelle, c'est-à-dire... on n'est pas comme dans les têtes brûlées, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est malheureusement électrique, entièrement électrique.
Je vais une manivelle.
Voilà. Une question, est-ce que ça peut être couplé avec une batterie ou pas ? Je ne sais pas.
Non. C'est une question technique. Que
ça sera peut-être à étudier.
Pour l'instant, donc ce que je vous propose là, c'est, je répète, c'est de maintenir la sirène aux frais de la commune, de m'autoriser à signer la convention de cession de la sirène, et j'ajoute en troisième point qu'on va remettre en place le test de la sirène tous les premiers mercredis du mois, puisque c'est ce qui se faisait autrefois.
Oui, monsieur Lally. Une information à la population justement sur l'utilisation et le signal.
Alors, oui, on va informer la population, ça, pas de problème. On peut le faire par l'intermédiaire du site internet et par l'intermédiaire d'une publication papier. Et ensuite, aujourd'hui, si à une époque donnée, il y a eu différents signaux qui ont été mis en place pour ce type de sirène, c'était surtout dans la période de guerre froide, avec différents codes, aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité, ça n'existe plus. Il y a un seul code, c'est le coulon, et c'est tout, qui doit durer, si je ne me trompe, une minute, ou quelque chose comme ça.
À une époque, le nombre de coups correspondait pas si c'était
un arrivé, ça.
Oui. Tout ça a été arrêté, tout simplement parce que ce qui est évoqué là, ça fonctionne très bien dans un milieu de gens qui sont entraînés, professionnels, pour des alertes particulières. La population, déjà, effectivement, on va la sensibiliser au fait que la sirène existe et que, en cas de problème, elle sera déclenchée. Mais derrière ça, je pense qu'on ne puisse pas aller beaucoup plus loin.
Oui, c'était par rapport, comme il n'y avait pas de caserne de pompiers, ça permettait à la sirène de rappeler les pompiers pour qu'ils passent à la caserne chercher le matériel pour pouvoir intervenir.
Différent.
Bien. Donc, je vous propose de passer au vote sur cette sirène. Donc, premier vote, maintenir la sirène au frais de la commune, donc la cession. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité, le conseil municipal décide que qu'on récupère le matériel qui sera cédé à titre gracieux et qui sera maintenu aux frais de la commune. Deuxième point, m'autorisez-vous à signer Je demande l'autorisation de signer la convention de cession de la sirène avec l'État. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je suis autorisé à signer la convention. Bon, ceci dit, c'est à midi, donc tout le monde devrait être réveillé, même pour les plus...
Sauf Léon.
Bien, on passe au prochain point de l'ordre du jour. Donc, location de la salle de la ferme au festival Musique en Herbe. Donc, le festival Musique en Herbe va commencer d'ailleurs samedi. Dans ce cadre-là, il va rassembler un certain nombre de stagiaires à l'école des remparts, école maternelle, école primaire, ça fait l'objet d'un vote. Ensuite, là, il s'agit simplement, il déjeune donc à la salle de la ferme du 5 juillet au 14 juillet, soit 10 jours. Et il s'agit que vous m'autorisiez à prendre le tarif suivant pour ces 10 jours. C'est 1 050 € pour la période. Alors je signale que c'est le même tarif qu'en 2013, sur la même période. Il est évidemment moins élevé que si on appliquait le barème que nous avons voté lors de la dernière, du dernier conseil municipal. C'est une action qui est conduite depuis alors une vingtaine d'années, si j'ai bien compris. Hein. J'ai hésité à dire 20 ans, mais ça doit être ça. Ça doit être le 20e. Voilà. Et quand ils viennent, ils font un certain nombre de concerts, sur, pas uniquement à Verberie d'ailleurs, hein, dans le sein de la CCBA. Donc voilà, et il y a aussi un autre apport que la simple formation des stagiaires, qui par contre, il faut le dire, sont très très peu nombreux, c'est le moins qu'on puisse dire, à être de la CCBA. Voilà. Bien, donc... Donc je demande la fixation de ce tarif à 1 050 € pour la période considérée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bon, à l'unanimité, le tarif sera de 1 050 €. Point suivant de l'ordre du jour. Donc on passe au compte-rendu, à la partie compte-rendu des réunions et des organismes extérieurs. Donc je vais laisser la parole à Ferrouj Jaraoui, présidente du syndicat des eaux assainissement Verberie-Saint-Val-de-Lomont, pour une première intervention.
Oui, donc vous savez que j'ai été élue présidente du CIPOM le 2 mai dernier. Ce jour-là, également à l'ordre du jour, le vote des budgets 2014 et du compte administratif 2013. Nous avons pu collectivement voter le budget compte administratif au pluvial qui ne posait pas de problème. En revanche, s'agissant des comptes administratifs eau et assainissement, on n'avait pas tous les éléments pour l'affectation des résultats, et notamment les restes harmonisés pour le service assainissement qui nous ont paru très importants. Donc nous avons différé, j'ai souhaité différer le vote de ces documents. À plus tard, le temps de rencontrer le comptable de Conseil Maxence. Ce que nous avons fait avec Mme Fusée, la secrétaire, le 7 mai. Et c'était donc l'occasion de remettre un petit peu les choses à plat par rapport à un certain nombre d'écritures, notamment les écritures d'ordre concernant l'amortissement des subventions d'équipement, lequel semble-t-il a été interrompu pendant plusieurs années. Et M. Doublé, le comptable, m'a demandé de solder ces écritures. Ce que nous avons fait sur le budget assainissement et eau à hauteur de près de 2 millions d'euros, hein, sachant que ce sont des écritures qui sont sans impact sur le budget, hein, ce sont des écritures d'ordre qui s'équilibrent de la section d'investissement à la section de fonctionnement, donc cette opération a été régularisée. C'est lors de la rencontre, M. Debré nous a également indiqué que depuis plusieurs années, il essayait également de récupérer environ un petit peu moins de 200 000 euros auprès de la Lionel des eaux. Donc pour des dépenses que le CIVOM aurait indûment payées pour la fourniture d'eau par le SIAP. Et donc pour cela, j'ai essayé de trouver une date pour réunir tout le monde, pour en discuter et trouver donc les solutions qui s'imposent. On n'a pas réussi à trouver des congés qui arrivent, on n'a pas réussi à trouver une date. Ça se fera donc à la rentrée du mois de septembre. pour récupérer cette somme pour le budget d'assainissement. Lequel budget, d'ailleurs, j'ai découvert que malheureusement, à ce niveau-là aussi, les budgets sont très tendus, puisque le budget d'assainissement ne présentait qu'un excédent de 600 000 euros, alors que nous avons pratiquement pour 3 millions, pour 500 000 euros, hors taxes de travaux à faire sur les 15 prochaines années, dont 1,7 million pour les 3-4 prochaines années, et le plus urgent est pas sur la station d'épuration, qui n'est pas en norme. J'ai découvert à cette occasion que justement la DREAL avait sollicité la présidence en 2011, alerté pour cette mise aux normes que les situations étaient restées en état et qu'on était menacé de sanctions administratives et pénales. Donc j'ai dû répondre, déléguer la Lionel des Eaux pour qu'elle fasse un rapport sur ce qui a été fait depuis 2011 et j'ai inscrit, nous avons collectivement voté au budget, les travaux, les premiers travaux les plus urgents, en hauteur de 600 000 euros, que nous finançons donc en partie par une subvention de l'Agence de l'eau et par de l'autofinancement. Donc on va être ric-rac au niveau du budget assainissement. On a voté un budget en 300 000 euros, mais ce qui nous porte pour la soif. Ça veut dire que le prix de l'eau est déjà assez élevé sur notre commune. Et au niveau de l'eau, il y a également à prévoir, monsieur le président du SNDAP, vous le savez, à prévoir une nouvelle ressource sur notre territoire. Donc il y a un forage d'essai qui sera fait par la Lionel des Eaux. Il y a 3 emplacements qui sont prévus, donc pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a prévu au budget à peu près 50 000 euros aussi pour cette étude, pour ce forage d'essai. Et on fera à partir de l'année prochaine un plan pluriannuel pour les travaux, en sachant que vous avez dit que les priorités une en travaux d'assainissement sur notre territoire essentiellement s'élève à 1,7 million hors taxe. Alors, je ne vous citerai pas le nombre de véhicules sur lesquels il faut intervenir, mais elles sont évidemment très nombreuses et les travaux sont très coûteux. L'autre problème, c'est que aussi au niveau de l'assainissement non collectif, il y avait une obligation légale de contrôler ces assainissements au 31-12-2012, et il semblerait que ce ne soit pas fait, et qu'un projet donc, de prise de la compétence France par le CIVOM avait été adopté en 2012 par les délibérations. L'arrêté préfectoral n'a pas été pris, et à la relecture des délibérations et après réflexion, donc nous allons faire une réunion avec la Lionel des Eaux le 8 juillet prochain pour voir ça de près, et voir si on peut reprendre de nouvelles délibérations, savoir si on prend que la compétence contrôle, ou si on prend la compétence contrôle et maîtrise d'ouvrage de manière à permettre aux propriétaires concernés par les travaux de mise aux normes à bénéficier des subventions de l'Agence de l'eau et éventuellement du Conseil général. Donc tout ça, ça sera traité dans le courant de l'année prochaine, dans le dernier trimestre pour une délibération et puis dans l'année suivante.
Enfin, les gens qui sont concernés par le SPANC sont essentiellement ceux de Saint-Vart.
Oui, hein, oui. Alors, nous sommes de Madame.
Je tiens à signaler.
Oui, mais je sais très bien, M. Floury, l'Agence de l'eau m'a donné le nombre d'assainissements concernés. Effectivement, il y en a plus sur Saint-Vart que chez nous. Alors, mais nous sommes dans une collectivité, nous sommes dans un CIVOM. Alors, donc, c'est pour ça que la question de la compétence avait été votée, puisque le Conseil municipal de Vergerie avait voté en 2012. Le CIVOM l'a accepté, ça va également. Donc aujourd'hui, je souhaite simplement remettre le dossier au jour.
L'arrêté n'a pas été pris.
L'arrêté n'a pas été pris. Voilà, il n'a pas été pris. J'ai renseignement pris auprès de la préfecture, il n'a pas été pris. Donc je saisis l'occasion pour voir les choses et rebattre les cartes et voir combien tout cela va coûter, de manière à prendre la décision, la meilleure décision possible par rapport aux finances publiques et puis. Peut-être aussi dans l'intérêt des propriétaires concernés, s'ils n'ont peut-être pas tous les moyens de refaire leurs assainissements à leurs frais. S'ils peuvent bénéficier des aides de l'État, ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose. Donc voilà, au niveau du CIVOM, actuellement, il y avait aussi un autre problème de pollution dans un petit rue, pareil, pour lequel l'ONEMA avait fait les signalements depuis le mois de janvier. Une pollution que j'ai été rappelée, pareil, un mail assez sévère, et j'ai dû faire passer le. La Lionel des Eaux, qui a procédé aux travaux la semaine dernière. Donc, apparemment, ces effluents, enfin, cette pollution, proviendraient du mauvais fonctionnement du poste de refoulement de la rue des Moulins, qui constamment en surcharge, parce qu'il manquerait un réseau de pluvial dans la rue de Verdun. Et que, par contre, donc, il y a un excès d'hydrant qui arrive à ce poste de refoulement. Il faut bien que ça parte quelque part et ça va jusqu'à ce rue qui va à l'automne. Donc, il y avait. Pareil, avertissement assez sévère de l'UNEMA. Hein, parce qu'il nous avait menacé de saisir le procureur, parce que là, il n'y avait pas de mortalité psychique, d'après ce qu'il m'a dit, mais que si c'était le cas, il saisirait le procureur pour négligence par rapport à cette pollution. Écoutez, voilà, par rapport à ces bombes, voilà ce que j'ai dit, c'est important. On va rentrer dans le détail de ce qui s'est fait. Il y a également le problème des certificats de conformité pour les ventes de biens. Et là, on a eu le problème tout récemment d'une personne qui vendait son bien rue de Paris, au 20 rue de Paris, à l'ancienne gendarmerie, et qui s'est vue opposer donc un certificat de non-conformité. A priori, ce bâtiment-là ne serait pas raccordé au réseau collectif de la rue de Paris. Donc, M. Fleury, si éventuellement, si vous avez une information en tant qu'ancien maire et en
Alors, de on va les permis de construire.
Il faudra qu'on voit parce que.
On va reprendre le permis de construire de la gendarmerie.
Oui.
Permis d'aménagement, puisqu'il y a
eu. Oui, il y a eu un permis d'aménagement. Une dizaine d'années, je pense.
Au moins une dizaine d'années.
Puisque la loi parle de l'acheter en 2005, oui.
Voilà.
Oui. Elle
a bien conservé. Mais du coup, elle est sur la route des remparts.
C'est une obligation.
Je pense ça.
La Lyonnaise, apparemment, n'est pas en mesure de vérifier que
c'est cinq maisons,
ce bâtiment et six logements qu'elle a sont raccordés en mesure. Donc, il n'a pas pu délivrer.
C'est-à-dire que la gendarmerie n'aurait pas été.
La
gendarmerie n'était pas raccordée au réseau.
Au réseau collectif de la rue de Paris, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, on n'a pas planté à boire. C'est un problème. J'ai reçu cet après-midi la propriétaire concernée. Parce que sur le document d'achat, pour elle, sa maison était rapportée.
Et
dans le document, quand elle a acheté sa maison, en 2005, on lui a dit que le bien était raccordé au réseau collectif.
Oui, mais la disant, c'est que en 2005, ça n'était pas obligatoire.
Oui, en 2005, c'était pas obligatoire.
Donc on a dû lui dire que c'est fait, mais oralement.
Oui, voilà, je pense que ça doit être ça.
Il n'y a pas eu aucune vérification.
Au moment des sessions, ils sont confrontés. Il y a eu un peu en 2013.
Alors, il y a eu une.
On tente peut-être sur un cas particulier là, qui pourrait être traité en dehors du conseil municipal.
Tout à fait.
Ouais, écoutez, voilà, je voulais ajouter deux points sur le CIVOM. Oui. C'est que quand j'ai assisté à la réunion, visiblement la manière dont fonctionne l'assainissement rue des Moulins est un grand mystère pour tous les gens qui étaient autour de la table, y compris les techniciens de la Lyonnaise des Eaux et enfin, ceux qui sont en charge du fermage. Et ensuite, un autre point, c'est qu'on a quand même une partie importante de notre réseau qui est vétuste et qui est à refaire. Alors les noms, rue Juliette Adam, enfin il y en a, il y en a des tas. Mais le point que je voulais souligner, c'est que visiblement, lors de la réunion, l'agence de l'eau est en train de se montrer beaucoup plus exigeante sur le niveau de réalisation technique pour accorder ses subventions. Et là, ça risque, ces 3 millions que tu as annoncé tout à l'heure, risquent considérablement, s'ils maintiennent leurs exigences, risque d'augmenter de manière importante.
Voilà, tout à fait. Ça risque de passer presque des
millions. Oui, enfin, c'est quand même jusqu'en 2025. Hein.
Oui, il y a une première tranche.
Jusqu'en 2025.
Oui, hein.
C'est une étude qui a été faite. Hein, qui
est... 2011.
Mais j'ai fait le point et la première tranche qui doit être réalisée sous 5 ans. Les études diagnostiques ont été faites entre 2010 et 2011. Donc on est déjà à 3 ans de retard par rapport au programme. Et l'agence de l'eau, effectivement, était extrêmement sévère et stricte parce que les choses n'ont pas été engagées, qu'elles ne sont toujours pas, puisque pour la façon des préparations, on a prévu des préparations, on les a votées, et on a une nouvelle réunion au mois de septembre avec tous les partenaires pour le lancement de la procédure de marché pour que les travaux puissent être engagés l'année prochaine. Donc il y a quand même beaucoup de choses en souffrance à ce niveau-là. Et puis dans l'autre syndicat dans lequel je suis déléguée, c'est le SAGEBA. Donc là, écoutez, il n'y a rien de particulier à signaler. J'ai fait part au nom de la commune aussi du mouvement d'humeur par rapport à l'atlas des zones humides, puisque notre commune est concernée notamment du côté de la zone industrielle. Donc il a été indiqué lors du premier conseil que très nombreux élus ont eu une réaction un petit peu de colère par rapport à cet atlas, et que par conséquent il y aura vraisemblablement une nouvelle étude, une nouvelle expertise par des experts qui Voilà, pour comparer avec l'étude de l'Adréal qui paraît être très stricte. Et,
il ne peut pas être jugé parti. Hein. Donc à partir de ce principe, il faut que ce soit un cabinet extérieur qui fasse cette étude, qui n'ont pas l'État.
Voilà, c'est sûr, parfois on s'oriente, et puis s'il y avait malgré tout, il y avait un désaccord, l'Adréal maintient qu'il y avait un désaccord, il y aurait un arbitrage qui serait fait. Bon, donc au niveau de ça, j'ai pas, il n'y a rien à signaler de particulier.
En tout cas, c'est un point important pour nous, ces zones humides, qui touchent clairement les zones d'activité.
Voilà, donc ça, ça a été signalé, ça a été porté à la connaissance.
Pardon ? Peut-être pas que.
Oui. Puisqu'on a vu ça lors d'un réunion.
Oui.
Écoutez, voilà. Excusez-moi si j'ai été trop longue.
Compte rendu, juste un mot, Evelyne, sur le très haut débit.
Oui, alors nous sommes allés lundi 30 juin, nous avons été conviés sur le chantier qui se déroule sur Gouvieux pour l'installation du très haut débit. Bah, apparemment, ils avancent vite. Hein, était présent M. Yves Rome, hein, donc président du Conseil général. Et nous avons donc vu le chantier, nous avons eu des explications sur l'installation du très haut débit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de retard dans l'installation du très haut débit. Donc, ils tiennent les délais, ça c'est bien. Et puis l'autre nouvelle, c'est que pour les habitants, on va dire pour les habitants en général, donc ça ne coûtera rien sauf le coût de leur fournisseur d'accès, mais disons que le raccordement sera gratuit. Donc voilà les nouvelles pour.
Quand ça ne coûtera rien,
ils le paieront quand même au travers de.
Il est clair, tout ça c'est payé par les impôts. Donc c'est évidemment un investissement.
Oui, bon. La date, c'est pour quand environ?
Pour nous entre décembre 2015 et décembre 2016.
Voilà. 300 euros par foyer, je crois.
370.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Ouais. Mais c'est 1020 euros au total. Et de toute façon, les 1020 euros sont payés par des impôts, qu'ils soient locaux ou autres. Hein. Donc, c'est 1020 euros par prise.
Un euro sur la ville ou les
non.
Ceux qui sont à l'extérieur.
Toutes les maisons, y compris celles qui sont isolées, quel que soit, m'a-t-on assuré et confirmé par les techniciens qui étaient là, toutes les maisons seront connectées. Pour nous, on a un point un peu particulier, c'est que toute l'ARC, ne participe pas à ce programme, puisque comme c'est une zone urbaine, dense, les fournisseurs d'accès vont investir eux-mêmes, en fait, pour faire du très haut débit. Et nous, on est, surtout du côté de Saint-Sauveur, à la Mabonnerie. D'un côté, c'est l'ARC, et de l'autre côté, c'est nous. Et donc, moi, je me posais des questions, parce que quand on est toujours à la limite comme ça, on peut se demander comment ça va se passer. Et là, on m'a assuré que non. Oui, même s'il n'y a qu'une route de différence, il y a une frontière et toutes les maisons de Ververie seront raccordées. Voilà. Il y avait sur place les techniciens qui mènent l'opération, donc ils sont plusieurs. Il y avait également des élus, il y avait des élus du conseil régional, mais il y avait également les élus de la communauté de communes de l'aire cantilienne qui étaient présents et qui, eux, m'ont dit qu'ils avaient été rassurés par la qualité de ce qui avait été fait. Là-bas, il faut savoir que pour faire toute cette mise en très haut débit, alors ça descend pas bien sûr du réseau de l'endroit, mais il n'y aurait que 400 mètres de rue ouverte sur tout ce qui est Gouvieux, seulement 400 mètres de rue ouverte.
Il faut savoir que même l'extérieur quotidien, c'est gratuit.
Oui, oui. Alors, c'est gratuit, pas à Gouvieux. Enfin, à Gouvieux, ils sont dans le même cas. Ils sont dans le syndicat mixte Ouest très haut débit.
Parce qu'il y a il y a Compiègne, où il y a gratuité, où l'ARC ne paye rien. Et il y a Chantilly, par hasard. Et puis.
Beauvais.
Et ces trois villes-là qui, par hasard, ne payent rien. Pas d'investissement.
Alors, c'est
une remarque que je fais, moi, c'est tout. C'est un constat.
Moi, je constat. Après, les explications, elles peuvent être sans doute diverses. Il y en a qui tiennent peut-être quand même à des raisons techniques, c'est que les fournisseurs d'accès investissent plus facilement sur les zones urbaines denses que sur des zones plus rurales. Maintenant, après, qu'il y ait d'autres explications, là, c'est une question de retour sur investissement pour eux.
Oui, enfin, 110 ou 30, si ce n'est pas des zones rurales,
Moi, je, sur ce plan-là, me concentre sur Verberie, et nous, c'est clair, oui, on dénonce.
C'est même une question qui a posé. Pourquoi certains, ils ont la gratuité, alors que d'autres n'ont pas.
Eh oui.
Ça ne doit pas être seulement que technique. Hein.
Moi, non, non, sans doute pas, mais bon, il faut demander, dans ce cas, aux intéressés, M. Marigny, M. Meurt, et Mme Cailleux. Voilà. Bien, autre point. Donc, il y a eu un conseil communautaire. Donc, je voulais simplement indiquer au conseil municipal que les 7 représentants de la majorité municipale avaient voté contre le rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets, rapport annuel qui a été adopté à la majorité des représentants des communes présentes. Nous n'avons pas été d'accord et nous avons voté contre. Parce que nous pensons que, d'une part, quand on fait un rapport, c'est destiné en fait à faire un état des lieux pour prendre les décisions à venir et donc améliorer le service. Et nous considérons que ce rapport n'est pas objectif. Et évidemment, l'objectivité du rapport, c'est une condition indispensable pour avoir de bonnes bases qui permettent d'améliorer le système. Voilà. Autre point, je viens de recevoir le rapport d'activité 2013 de l'entente OASEN. Donc évidemment, il est à disposition de tous ceux qui veulent le consulter. On l'a reçu aujourd'hui, donc je ne l'ai pas parcouru, mais c'est à la disposition de tous ceux qui veulent le consulter. Par contre, je tiens à vous apporter une autre information qui concerne plus directement Verberie et le syndicat de l'entente OASEN. J'avais posé à M. Cornet la question de nos digues, de savoir si nos digues, en fait, étaient suffisantes pour, d'une part, protéger la population, mais, enfin, lorsqu'elles seront certifiées, complétées, etc., on en a débattu en conseil municipal, mais aussi pour être prises en compte dans le cadre de la réactualisation et la modification du plan de PPRI, des risques inondations. Voilà. Donc, je tiens quand même à vous faire part de sa réponse, qui, claire, ne me satisfait pas. Il m'a indiqué dans sa réponse que, aujourd'hui, le niveau de protection accordé par les... Je résume, hein, parce qu'il y a tout un chapitre. Le niveau de protection accordé par les... digue de Verberie est calé sur 32,35 m, c'est une côte, hein, c'est pas la haute des digues évidemment, 32,35 m, et que donc le PPR actuel, plan de prévention des risques, inondation, s'appuie sur un événement de référence qui correspond localement à une côte de 32,26 m, donc jusque-là tout va bien, on est protégé. Maintenant, le plan est en cours de révision et ils attendent les modélisations. Toutefois, alors là je vous lis la partie du texte, si l'on se réfère au modèle développé par Artelia, qui doit être une société pour le compte de VNF, et son projet Mageo, qui nous semble être ce qu'il y a de plus actuel sur le secteur, la future cote devrait être d'environ 32,59 m. Autrement dit, il nous manque 34 cm sur nos digues. Il ajoute toutefois, enfin, si Mageo est réalisé, sachez que les niveaux descendent localement de 11 cm. Bon, il ne manquera plus que 20 et quelques centimètres. C'est rassurant. Ce qui fait que ça m'a amené à lui poser la question, parce que je voulais quand même en avoir le cœur net. Votre réponse signifie-t-elle que les digues de protection de Verberie ne seront pas prises en compte dans l'établissement du futur PPRI? Ce qu'il m'a confirmé. Voilà, dans l'hypothèse probable où l'aléa de référence en cours de modélisation serait à une cote supérieure en 32,35 m, ce qui était a priori les éléments qu'il avançait, les digues ne protégeraient pas la population de Verberie sur un tel événement et n'auraient donc pas d'influence sur le zonage réglementaire. Après, il y a un chapitre qui vaut le coup d'être lu en 4 phrases. J'insiste néanmoins sur le fait que le PPR fixe les modalités des nouvelles constructions, mais les digues, lorsque le tronçon manquant sera réalisé, protégeront la population en place pour tous les événements inférieurs à la cote 32m35. C'est le cas de tous les événements connus de mémoire d'homme, et notamment 93, 95, 2001, 2003, 2011. Elles sont donc un atout important pour vos concitoyens. Autrement dit, quand on voit la nouvelle, alors il y a deux conclusions. C'est que si les études confirment ces différents points, en fait, du point de vue de la protection des habitants, bon, c'est bien. Surtout si on y dit que de mémoire d'homme, on n'a jamais rien vu qui excède ces niveaux-là. Par contre, pour tout ce qui est zone rouge et zone bleue, il n'y aurait pas de digue, ce serait exactement la même chose. Et puis ensuite, quand on dit que le niveau va monter de 30 cm, il va forcément y avoir une répercussion sur l'étendue des zones rouges sur la commune. Voilà. Ce dont je voulais vous faire part. Donc il va de soi qu'il faut être très attentif à ça et voir comment, dans la mesure où on en a la possibilité, on peut atténuer ces décisions en termes de niveau.
Cédric, il faudra faire reprendre toutes les cotations dont certaines ne sont pas bonnes. Et dès que le PPR SANI sera publié au tribunal administratif et demander les cotations, de la reprise des cotations qui sont fausses.
Parce qu'elles sont fausses, selon vous ?
Ouais. Comme, c'est-à-dire que Longueuil, c'est Chevrière qui l'avait fait, et ils ont. Parce que là, les cotations ne sont pas bonnes, et il faudrait une reprise des cotations, des vraies cotations. Mais il est vrai que c'est très vieux cette affaire, hein, 20 ans, et que seul y a un maire qui a mis au tribunal, ils ont repris les cotations, ils ont rechangé les cartes, forcément, parce que ça date de 1900. Hein, les cotations, elles ont été faites. Aujourd'hui, on a des moyens techniques beaucoup plus élaborés pour pouvoir faire ces cotations.
Donc Verberie.
Et il y a les crues millénaires, il y a le Périgny, et je ne vous parle pas des crues millénales.
Ah, d'accord.
Les crues millénales, dont on ne sait pas si c'est 300 mètres au-dessus.
Moi, ce que je retiens pour l'instant, c'est que l'élément pris en compte comme référence pour mettre en place ces zones rouges, ces zones bleues, c'est la crue centenale, et donc celle dont on vient de parler. C'est pour ça que j'ai parlé de celle-là, et pas de la crue millénale qui, alors là,
méfie toute concurrence. C'est important parce que sur les crues millénales vont être mises sur les cartographies. Et lorsque vous avez une cartographie avec les crues millénales, les entreprises qui sont dans la crue millénale, elles sont devenues invendables, puisqu'elles sont dans les crues millénales. Et c'est bien pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant pour ne pas se laisser imposer les crues millénales qui, aujourd'hui, qui peuvent exister dans les 1000 ans qui viennent. Bon, d'accord.
Bon, si j'ai bien compris, il y a quand même eu un certain nombre de réunions avant les élections, lors duquel ce type de sujet a été évoqué. Et aujourd'hui, les crues millénales sont toujours inscrites à l'ordre du jour.
Tout à fait, parce que vous savez, face à l'État, vous pouvez dire, vous pouvez faire des remarques.
Oui. Y compris sur l'ampleur des études qu'ils veulent conduire et les coûts, et savoir qui assurera les coûts derrière. Bien.
Ils sont venus au moment de la sirène.
Dernier point d'information. RFF aujourd'hui est propriétaire d'un terrain qui se trouve près route de pont, près de la ligne LGV, terrain de plus d'un hectare qui se situe dans ce point-là. On peut distribuer, là j'ai fait un certain nombre, il n'y en a pas pour tout le monde, mais enfin il y en a au moins une pour deux, donc prenez-en une pour deux, ça suffira, pour que chacun puisse visualiser l'endroit. Alors c'est un lieu dit, ça s'appelle La Cave, vous allez voir. Hein, c'est juste après la ligne LGV, en fait, sur la gauche, quand vous partez en direction des ponts. Voilà, j'attends que ce soit distribué. Bon, ce terrain est situé en zone naturelle, donc il doit de plus faire l'objet de servitudes importantes puisqu'il est le long de la ligne LGV, hein, donc, de ce point de vue pour ça. Maintenant, manifestement, voilà, ce terrain a été, ce terrain a été évalué. Tout le monde voit où ça se situe à peu près. Donc, ce terrain a été estimé par les domaines à 9 400 euros. Et en fait, alors on ne prend pas de décision aujourd'hui, hein, mais on s'apprête peut-être à en prendre une le 1er septembre, en gros, pour préserver l'entrée de la commune, ce serait d'acquérir ce terrain de 1 hectare et quelques, 12 000 et quelques mètres carrés, ou 1 hectare 15, non ?
1 hectare 25.
Donc pour la somme de 9 400 euros, auxquels viennent sans doute se rajouter des frais divers et variés.
C'est marécageux,
là, non.
Par contre, c'est très cher par rapport sur un terrain qui...
75 centimes le mètre carré.
C'est quand même très cher.
Ça, c'est l'évaluation de France Domaine.
C'est plus cher pour la agriculture, c'est cher.
C'est l'évaluation de France Domaine, donc c'est l'évaluation des domaines, clair. C'est donc le prix bon, qui serait le prix de rachat.
C'est-à-dire que le problème était autrement, c'est qu'on ne peut pas avoir, voilà, je vais vous raconter une histoire quand même, hein, parce que qu'on ne peut pas avoir à exproprier. Hein, sur la ligne du TGV Paris-Lille. Et M. Sauvage est là, il pourra entretenir ce que vous faites.
Je ne sais pas.
Nous verrons.
Le prix du terrain a été surévalué. Bon. A été surévalué pour pas qu'il y ait de recours au tribunal administratif. Il n'y a donc pas eu de recours au tribunal administratif pour le rachat, pour l'achat des terrains, puisqu'il a été payé quasiment ce prix-là il y a 20 ans. Mais, bien entendu, puisqu'il a été évalué à ce prix-là, maintenant on nous le revend à ce prix-là. Bon, mais c'est un terrain qui avait été surévalué à l'époque pour ne pas aller au tribunal administratif. Et aujourd'hui, ainsi, le TGV a pu se faire sans recours. Parce que tout le monde était content du montant du prix de l'hectare.
Bon.
Je ne comprends pas très bien.
Bon, ceci dit, l'histoire, c'est l'histoire. Aujourd'hui, on en est là.
Mais c'est quand même très cher.
Non, c'est pas cher. J'ai vu beaucoup plus cher.
Ah, mais forcément, c'était encore plus cher.
Il n'y a pas ici, hein.
On est devant un état de fait. Moi, je pense que c'est intéressant pour la commune et ça la protège d'acquérir ce terrain, même si il me semble un peu cher à 9 400 euros.
Oui, vous avez raison.
Décision après d'acheter ce terrain. C'est arrivé hier. Donc, on avait une première question de RFF, hein, ou de celui qui agit pour lui, qui est la société Nexity. On avait eu une première question nous demandant si on était intéressé par le terrain. On avait répondu peut-être, mais donnez-nous d'abord le prix. Il semblait quand même la moindre des choses. Voilà. Donc, on a eu la réponse hier. Il était de toute façon trop tard pour le mettre à l'ordre du jour. du conseil municipal, c'est quand même une décision importante. C'est ce que j'estime. Voilà, c'était le dernier point. Information de cette réunion. Il me reste donc à clôturer la séance et à souhaiter à tout le monde de bonnes vacances avant qu'on se retrouve le lundi 1er septembre à 20h pour aussi des décisions importantes et nombreuses.